Dans les rues de Londres, la révolte des étudiants tourne à l'affrontement. Les précisions de notre correspondante dans quelques instants. Une banque du canton de Genève a été attaquée aujourd'hui. Karine Sweeney nous expliquera comment les ravisseurs sont repartis les mains vides. Le Conseil national renonce à son désir d'économiser dans l'aide au développement. Le conseiller national socialiste Carlos Omaruga s'en réjouit, vous l'entendrez. Une nuit claire, de l'air polaire et un temps sec. Demain, Pascal Bénard nous apporte ses prévisions complètes à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Des milliers d'étudiants en Grande-Bretagne sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour exprimer leur colère face à la réforme des frais d'inscription universitaire qui a été approuvée aujourd'hui par une courte majorité au Parlement britannique. De violents incidents se sont produits à Londres, à proximité du palais de Westminster. Plusieurs policiers et étudiants ont été blessés. Cette réforme très controversée vise à augmenter le coût d'entrée à l'université, qui passera d'ici à 2012 de 5 000 francs à 9 000, voire 14 000 francs par an, soit les frais parmi les plus élevés d'Europe à Londres. Catherine
Cette réforme du financement des universités constitue l'épreuve la plus sérieuse à laquelle le gouvernement de coalition de David Cameron s'est trouvé confronté depuis son arrivée au pouvoir. L'opposition était non seulement très vive, parfois même violente dans la rue, mais aussi au Parlement où le projet de loi a été débattu avec vigueur pendant plusieurs heures. Pour le gouvernement, la hausse des frais est inéluctable alors que les caisses de l'État sont vides. Cette réforme est progressiste, dit-il, car contrairement au système actuel, les étudiants qui auront contracter un emprunt auprès de l'État pour financer leur cursus ne devront le rembourser que s'ils gagnent plus de 32 000 francs par an à la sortie de l'université. Par ailleurs, une exonération des frais est prévue pour les plus défavorisés. Mais en dépit de ces mesures d'accompagnement, la rancœur est énorme parmi les manifestants qui ont la ferme intention de poursuivre leur mouvement de protestation. Catherine Illich, Radio Suisse Romande, Londres.
Le comité international anti-lapidation, dont le siège est en Allemagne, annonce ce soir que l'iranienne Sakineh Mohammadi Ashtiani serait libre. Cette femme, condamnée à mort par lapidation, aurait, selon les dires de l'organisation, été relâchée, ainsi que son fils et son avocat. Alors qu'il est, nous ne disposons pas de confirmation officielle. La télévision iranienne en anglais Press TV annonce pour demain un programme sur Sakineh, mais sans faire mention d'une quelconque libération. L'ex-patron et fondateur de Parmalat, Callisto Tanzi, a été condamné cet après-midi à 18 ans de prison pour le crash du groupe en 2003 qui avait laissé un trou de 14 milliards d'euros. Avec d'autres anciens dirigeants condamnés, il devra par ailleurs verser 2 milliards d'euros à Parmalat. Les États-Unis ont brandi ce soir la menace de sanctions et l'Union africaine a suspendu la Côte d'Ivoire, renforçant la pression de la communauté internationale qui ne reconnaît pas la réélection de Laurent Gbagbo à la présidence. De son côté, le gouvernement de Guillaume Soro, premier ministre d'Alassane Ouattara, a appelé ce soir dans un communiqué l'armée à reconnaître Alassane Ouattara comme son chef suprême. On saura la nuit prochaine ou samedi si la conférence sur le climat de Cancun aura ou non atteint son objectif de jeter les bases d'un prochain accord global sur la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis aujourd'hui, les discussions entre les 190 pays représentés se déroulent quasiment 24 heures sur 24 dans une ambiance plutôt particulière. Sylvio Delezan.
Effectivement, parce que la zone hôtelière de Cancun où se déroule la conférence est un lieu particulier. Une station balnéaire à l'américaine, totalement isolée de la ville mexicaine. Ici, les prix sont affichés en dollars et ils n'ont rien à voir avec le niveau de vie mexicain. Et la particularité du lieu a des conséquences insolites. On a par exemple vu la présidente d'un pays, en l'occurrence Doris Leuthart, affublée comme tout le monde du petit bracelet inamovible en plastique et en couleurs pétantes qui lui permet de profiter du all-inclusive de son hôtel. On a aussi vu un secrétaire d'État, Bruno Oberle, directeur de l'Office fédéral de l'environnement, se déplacer à vélo entre les différents lieux de réunion. Tout ça sous le regard goguenard des iguanes. Les iguanes, ils n'ont en revanche pas vu le bateau Planète Solaire qui aurait dû accoster près du centre de conférence. Mais son tiron d'eau ne lui permettait pas de passer le récif de corail. C'est plutôt une bonne nouvelle, le changement climatique n'a pas encore tué les coraux de ce coin de la planète. Sylvie Dolzan, Radio Suisse Romande, Cancun.
Un nouvel hold-up ce jeudi dans le canton de Genève. Moins de deux semaines après l'attaque d'un bureau de change à Tonnet, une bande de criminels armés a attaqué la banque Raiffeisen de Collonges-Bellerive en banlieue genevoise. Ils ont découpé une des vitres blindées de l'établissement, mais ils n'ont pas réussi à rentrer dans la banque. Karine Sweeney.
Les braqueurs ont fait chou blanc, non sans avoir tiré un coup de feu pour assurer leur fuite. Selon la police genevoise, ces hommes étaient en possession d'armes lourdes et d'un équipement important qui leur a permis de s'attaquer à une vitre blindée. Les employés de la banque étaient présents dans les bureaux au moment de l'attaque. Ils sont choqués, ils ont été pris en charge par la police juste après les faits. Les criminels, eux, ont pris la fuite en voiture. Cette nouvelle attaque rappelle le hold-up de la banque de change Migros à Tonnet. C'était le 26 novembre dernier. Des voleurs avaient fait sauter un mur de l'établissement avant de s'enfuir. L'un d'eux avait même même été blessés par balles et arrêtés. Tout comme ceux de Tonnet, les braqueurs de Collonges-Bellerive sont jugés très dangereux. L'alerte transfrontalière a été rapidement déclenchée par la police genevoise. La police genevoise qui n'a pas chômé, puisque à peine quelques heures avant ce hold-up de la Raiffeisen, une course-poursuite s'est déroulée au centre-ville de Genève. Le chauffard en cause a percuté deux voitures de police avant d'être maîtrisé.
La gauche, le PDC et une partie du PLR a préservé hier l'enveloppe dévolue à l'aide au développement dans le budget 2011. Auparavant, ils voulaient pourtant économiser 100 millions destinés à des projets dans le domaine de l'eau et du climat. Dans le même temps, le Conseil des États a donné son feu vert à une augmentation de 640 millions de francs pour l'aide au développement ces deux prochaines années, dans le but de porter la part de l'aide à 0,5% du revenu national brut. Pour le conseiller national Carlos Omaruga, ces décisions sont des victoires d'étape.
C'est une victoire d'étape pour toutes les personnes qui soutiennent l'accroissement de l'aide au développement selon les objectifs du millénaire pour le développement.
Dès aujourd'hui, vous n'avez plus aucune crainte sur ce 0,5%?
Non, nous avons encore beaucoup de craintes puisque la commission de politique extérieure du Conseil national doit encore approuver le message du Conseil fédéral. En mars, c'est la plénière du Conseil national. Et puis, le message actuel, c'est pour des moyens supplémentaires pendant 2 ans et se reposera la question pour la prochaine planification des 4 années suivantes. Et là, ce sera encore un combat à mener pour atteindre tout simplement le 0,5, je rappelle, qui est encore loin du 0,7 que certains pays européens ont déjà atteint depuis des années.
Carlos Omaruga qui répondait à Nicole Lamont. On a reparlé de l'affaire Rachel, du nom de cette jeune femme agressée début janvier 2007 à Monthey. Ce matin à Martigny, le tribunal de district de Monthey qui siégeait hors les murs n'a pas rejugé cette affaire, mais l'agression dont a été victime un jeune Suisse d'origine albanaise 3 semaines au préalable. Celui qui était alors l'ami de Rachel a tiré sur lui avec un pistolet à plomb, lui perçant un œil. Claude Desfagots.
Ce tragique événement s'est produit en plein centre de Monthey quelques jours avant Noël. 3 semaines plus tard, Rachel était agressée. Le jeune homme qui a perdu son œil ne faisait pas partie des agresseurs. Il n'empêche, la défense du tireur a très clairement associé les deux affaires, stigmatisant les amis de la victime. Pour Maître Pascal Junot, on se trouvait alors dans une logique de bande et de violence.
C'est pas une affaire d'individu. On est mêlé à une bande, on fait partie d'une bande, presque d'une tribu. Et la violence, elle n'en est finalement qu'augmentée.
Maître Junot a plaidé la légitime défense contestée par le ministère public et le défenseur de la victime, Maître Henri Caron, qui a aussi vu dans cette stratégie le procès d'une communauté.
C'est des échos que j'ai entendus dans les plaidoiries des différents accusés aujourd'hui. J'ai eu cette impression-là.
Le procureur a réclamé 24 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, contre l'ex-ami de Rachel. Cité pour des délits mineurs liés à cette affaire, Rachel et sa mère risquent quelques jours amende. Les défenseurs ont plaidé l'acquittement pour leur client. Le jugement sera rendu ultérieurement.
Un autre procès dans le canton de Vaud, cette fois deux versions diamétralement opposées se sont affrontées aujourd'hui à Nyon au procès des policiers lausannois accusés de faux témoignages dans une affaire de spray au poivre. Au petit matin du nouvel an 2006, les 5 agents ont embarqué dans leur fourgon un jeune érythréen âgé de 16 ans. Il nous injuriait, pour éviter une émeute, j'ai pris la décision de l'interpeller, a raconté le chef de patrouille. À partir de là, les versions divergent, les policiers disent l'avoir déposé à un arrêt de bus sur les hauts de la ville, mais ils contestent formellement avoir fait l'usage du spray au poivre. Leur version a cependant été mise à mal par le témoignage d'un ancien policier lausannois, Bertrand Kolb, c'est son nom, il s'explique au micro de Michel Eman.
J'étais venu apporter mon témoignage concernant, non pas les faits directs, mais plutôt des arrangements qu'il aurait pu avoir au niveau des déclarations des collègues en question.
Et en substance, vous pensez qu'il y a peut-être eu un arrangement entre les policiers qui sont sur le banc des accusés pour appliquer l'omerta, une certaine loi du silence?
Alors là, c'est difficile de vous répondre, par contre je dirais que les faits qui sont décrits par le jeune en question ne sont pas incompatibles avec certaines pratiques qui avaient cours au sein de la police de Lausanne.
Et donc en substance, vous n'affirmez pas, mais vous dites que c'est pas impossible.
Voilà, je dirais qu'effectivement sa version pourrait être compatible avec la vérité.
La liste des milliardaires américains philanthropes s'est allongée cette semaine. 17 personnes supplémentaires se sont engagées à donner plus de la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives. Parmi elles, le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Le magazine Forbes a estimé sa fortune entre 6 et 7 milliards de dollars. Eric Guevara-Frey.
Mark Zuckerberg, 26 ans, aura fait beaucoup de choses très tôt, y compris donner la majorité de sa fortune. Pourquoi attendre quand il y a tant à faire? C'est la question qu'il pose dans sa lettre adressée à Giving Pledge, promesse de don en français, le registre lancé par deux des plus grosses fortunes mondiales. Mondial, Bill Gates et Warren Buffett. Ils veulent encourager les milliardaires américains à faire comme eux, à promettre par écrit de donner au moins la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives. Car Warren Buffett en est convaincu, rien ne sert de donner l'argent à des héritiers qui vont le dilapider, il vaut mieux en faire quelque chose d'utile. Depuis son lancement, cette initiative a enregistré les noms de 57 milliardaires sur une liste publiée à l'adresse givingpledge, en un mot, .com. En plus du fondateur de Facebook, on y trouve par exemple l'auteur de La Guerre des Étoiles, George Lucas, le maire de New York, Michael Bloomberg, ou encore le fondateur de CNN, Ted Turner. Et il y a de quoi l'allonger encore, cette liste, puisque le magazine Forbes estime à 400 le nombre de milliardaires résidant aux États-Unis. Éric Guévard-Affray, Radio Suisse Romande, Washington.
22h40, un coup d'œil à la bourse suisse. Elle a clôturé tout à l'heure en hausse pour la troisième séance consécutive. Le SMI a gagné 0,45%. Et les marchés d'actions américains, eux, ont fini sans orientation ce soir. L'indice Dow Jones a terminé sur une note stable, en baisse infime de 0,02%. Et le Nasdaq, lui, il a gagné 0,29%. On referme ce journal avec la météo, les prévisions de Pascal Bénard.
De l'air polaire s'écoule vers nos régions. L'atmosphère restera froide et le temps globalement sec jusqu'à la fin du week-end, même si Météo Suisse n'exclut pas quelques giboulées, surtout à la montagne. La nuit est claire au-dessus des régions du sud de la Suisse romande, comme le bassin lémanique et la vallée du Rhône. Les températures y seront nettement négatives à l'aube, jusqu'à moins 5 degrés. Au nord du plateau et du Jura, où la couverture nuageuse peine à se déchirer, les valeurs seront sans doute plus proches de moins 1 degré. Le temps demain sera semblable à celui d'aujourd'hui, avec un soleil dans l'ensemble un peu moins présent, mais bien visible tout de même au-dessus du Léman, du sud du plateau et du Valais. Malgré cet ensoleillement, les températures maximales resteront généralement en dessous de 3 degrés. L'atmosphère restera très froide à la montagne. Les thermomètres indiqueront au mieux moins 7 degrés à 1500 mètres et moins 9 degrés à 2000 mètres. Les conditions n'évolueront presque pas le week-end.
La météo avec Crazy Prices, article de sport d'hiver en liquidation, crazyprices.ch.
Le mot du soir, eh bien, ça sera un synonyme dans les deux sens, hein. Soit du verbe, on va dire, pinailler ou ergoter, ou...